Comme je l'ai dit, les arêtes étaient éboulées et émoussées par des éons d'intempéries. Mais leur solidité presque surnaturelle et la dureté du matériau dont elles se composaient les avaient sauvées de l'anéantissement total. Bien des parties, et surtout celles les plus proches des pentes, semblaient identiques à la surface rocheuse qui les entourait. Tout ceci évoquait les ruines du Machu Picchu dans les Andes, ou les antiques murs de soutènement de Quiche, tels que les avait découverts l'expédition conjointe de l'Université d'Oxford et du Musée Field de Chicago en 1929. Et Danforth et moi avons ressenti par moments cette impression de bloc cyclopéen distinct, dont Lake attribuait la paternité à Carol, son compagnon de vol. J'aurais bien été incapable d'expliquer la présence de ce genre de choses en un tel endroit, et en tant que géologue, je me sentais pris en défaut. Les formations ignées affichent souvent une régularité étrange, comme la fameuse chaussée des géants en Irlande, mais cette chaîne stupéfiante, malgré les soupçons de Lake qui croyait y voir des cônes fumants, démontrait une structure de toute évidence non volcanique. Ces curieuses bouches de cavernes, plus abondantes près de ces étranges formations, présentaient une autre énigme en raison de la régularité de leurs contours. Comme le disait le communiqué de Lake, elles étaient souvent carrées ou semi-circulaires, comme si ces orifices naturels avaient été façonnés par une main magique pour leur donner une telle symétrie. Leur nombre et leur distribution étaient remarquables et suggéraient que toute la région était ainsi sillonnée de tunnels créés par la dissolution de veines calcaires. Nous ne pouvions pas voir grand-chose des profondeurs de ces cavernes, mais il ne semblait y avoir ni stalactites ni stalagmites. À l'extérieur, les parties des pentes jouxtant les ouvertures étaient invariablement lisses et régulières, et Danforth pensait que les légères fissures et les reliefs dus à l'érosion formaient des figures inhabituelles. Les horreurs et les bizarreries découvertes au camp étaient toujours présentes dans son esprit, et il suggérait que ces dépressions ressemblaient vaguement aux surprenants groupes de points qui parsemaient les antiques stéatites verdâtres et qui avaient été si hideusement reproduits sur les monticules de neige recouvrant les sépultures démentielles de ces six monstruosités. Nous nous étions peu à peu élevés au-dessus des contreforts les plus hauts, pour nous diriger vers le col relativement bas que nous avions repéré. En cours de route, nous jetions parfois un coup d'œil vers la terre couverte de neige et de glace, en nous demandant si nous n'aurions pas pu tenter l'aventure avec les équipements plus simples des jours précédents. À notre grande surprise, nous avons constaté que, somme toute, le terrain n'était pas si difficile que cela et que, malgré les crevasses et autres passages difficiles, il n'aurait pas découragé les traîneaux d'un Scott, d'un Shackleton ou d'un Amundsen. Certains glaciers semblaient mener à des cols dénudés par les vents, avec une continuité inhabituelle, et en arrivant à celui que nous avions choisi, nous avons constaté qu'il ne faisait pas exception. Il serait difficile de décrire par des mots le sentiment d'appréhension et d'expectative qui s'emparait de nous alors que nous nous préparions à franchir la crête pour découvrir un monde où l'homme n'avait jamais mis le pied, même si nous n'avions aucune raison de croire que la région qui s'étendait au-delà de la chaîne de montagnes soit si différente de celle que nous avions déjà traversée. L'impression de mystère maléfique qui suintait de ses sommets et de la fascinante mer de nuées opalescentes entrevue entre les pics était d'une subtilité que les mots ne sauraient expliquer. C'était une question de vague symbolisme psychologique et d'association esthétique, mêlée à de la poésie et à des peintures exotiques, ainsi qu'à des mythes archaïques tapis dans des livres interdits et oubliés. Même le poids du vent semblait être doté d'une conscience maléfique. Et un instant, il nous a semblé percevoir dans son gémissement composite un étrange sifflement musical parcourant une gamme étendue, tandis que les bourrasques jaillissaient des cavernes omniprésentes. Il y avait dans ce son quelque chose de trouble et de vaguement répugnant, une impression aussi complexe et insaisissable que toutes celles que nous ressentions à ce moment. Après une lente ascension, nous avions atteint l'altitude de 23 570 pieds, s'il fallait en croire les instruments, et avions laissé derrière nous la région des neiges éternelles. Là-haut, il n'y avait plus que des pentes rocheuses, noires et dénudées, et le début de glaciers aux arêtes rugueuses. Mais ces cubes, ces remparts et ces cavernes remplies d'échos donnaient à ce spectacle un aspect surnaturel, fantastique et onirique. En parcourant des yeux la rangée de pics, j'ai pu repérer celui qu'avait cité ce malheureux Lake, avec un rempart en son sommet, il disparaissait à moitié derrière cette étrange brume antarctique, cette brume qui, peut-être, avait poussé Lake à soupçonner une activité volcanique. Le col s'ouvrait directement devant nous, lisse et balayé par les vents qui s'infiltraient entre ces deux piliers irréguliers, évoquant les crocs d'une gueule maléfique. Au-delà, s'étendait un ciel strié de volutes de vapeur et éclairé par le pâle soleil antarctique posé sur l'horizon. Le ciel de ce mystérieux domaine reculé sur lequel, pensions-nous, nul homme n'avait encore posé les yeux. Encore quelques mètres d'altitude et nous pourrions contempler ce domaine. Danforth et moi, incapables de parler, sinon par hurlement, pour couvrir le bruit du vent qui s'engouffrait dans le col et s'ajoutait au bruit des moteurs débarrassés de leur silencieux, échangions des regards éloquents. Alors, ayant gravi ces derniers mètres, nous avons effectivement contemplé, par-delà cette immense démarcation, les secrets inviolés d'une terre ancienne et absolument étrangère.